Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revenons donc dans nos lectures en liberté au texte de Mélis de Kerangal à ce stade de la nuit. Giuseppe Tomazzi di Lampedusa. C'est l'auteur d'un seul roman, Le Guépard, publié à titre posthume en 1958. Ce livre devenu ce film mythique. Ce que l'on peut savoir de lui tient à la description ample et précise qu'il donne de l'aristocratie sicilienne à travers celle de la famille du prince Salina. Famille dont la puissance est fondée sur le foncier, où l'on vit de l'exploitation et de la rente des domaines. Cette famille qui figure la sienne. Solitaire, lettré, auteur d'essais littéraires sur Flaubert, Stendhal, Byron, et professeur de littérature, Giuseppe Tomazzi pensa de longues années au Guépard. L'écrivit au milieu des années 1950 pour l'achever en 1956, peu avant sa mort. Autobiographie d'une famille. Ce roman saisit le moment d'un homme et des siens. Tisse ensemble livres politiques, fresques sociales et méditations sur le temps. Il est porté par le regard du prince Salina, dont l'auteur jugeait superflu de préciser qu'il était son arrière-grand-père. Giulio Fabrizio Tomazzi di Lampedusa. Lampedusa, Salina. Salina, Lampedusa. Je pose côte à côte ces deux noms qui désignent un même homme, prolongent un même prénom, Fabrizio. J'essaie d'intercepter ce qui circule entre eux, ces allées et venues, cette boucle tournoyante du sens. Ou comment le nom réel appelle et se déporte dans le nom fictionnel, migre de l'état civil au roman, du registre historique des titres de noblesse à celui de la littérature. Ou comment le nom fictionnel peut ressaisir le nom réel. Je tremble de plaisir et frotte mes paumes l'une contre l'autre quand je me souviens que Salina est aussi un toponyme. Désigne aussi une île de la Méditerranée, celle-ci non pas située au sud de la Sicile, comme Lampedusa, mais au nord, dans un autre archipel, celui des îles éoliennes. Deux noms pour deux îles, d'un nom à l'autre, d'une île à l'autre, la migration se poursuit. À ce stade de la nuit, je remue les mains au fond d'un tiroir, je tâtonne dans le fatras, agrégat d'objets au rebut qui archive le quotidien de l'appartement. J'entrechoque boutons, feutres secs, débris de Playmobil, échantillons de crème adoucissante, sachets de sucre ramassés au café, cuillères anciennes, billes, chewing-gum, téléphone portable sans vie, paquets de Kleenex et puis des centimes d'euros, des cents de dollars et des livres sterling, des photos d'identité tachées sur lesquelles je m'attarde enfin. Une cigarette fripée. Mais pas de boîte d'allumettes. Si bien que je vais ouvrir le gaz à la cuisinière et me penche, clope au bec, vers le feu bleuté. Je retiens mes cheveux, j'allume ma tige. vape. Et je songe maintenant à ces noms propres qui sont des toponymes, à ces anthroponymes qui désignent des lieux, à ces villes qui s'appellent Athènes ou Lisbonne, sous différentes latitudes, à ces personnages qui se nomment Quichotte ou Gargantua, Guermantes ou Mône. Je pense au Havre et à Bouville, à la route des Flandres, à Ellis Islands, aux Quartz et à Lascaux, à la mer des Sargasses. Je prononce lac Baïkal et Wyoming, je prononce Sahara et Cap Horn, et encore détroit de Gibraltar et delta du Mekong. Je murmure Grand Jorass, Guadalquivir et Loire, Liège, Bastogne, Liège. Je murmure Zanzibar, Andoum, Kachmaka, et encore Egual, plateau des mille vaches, massif des Maures. Je chuchote forêt noire, et peluche et les fougères. Les noms se bousculent, ils vibrent et prolifèrent, et parmi eux, sur une route des Landes, dans l'été qui bourdonne ce panneau rectangulaire, liseré de rouge et ses lettres noires, inscrivant Mélisse sur un fond blanc. Ou cette autre photographie en novembre, en Finistère, signalant Kerangal, sous un ciel noir. Je pense à ces noms inscrits dans les paysages et je pense aux paysages véhiculés dans les noms. Soudain, je me suis demandé comment les hommes avaient déposé les noms sur la terre. Des goélettes usées abordent les rivages, l'ancre est jetée dans une crique sablonneuse au-delà de laquelle vibre une forêt close. Les canaux sont mis à l'eau et des types affamés s'y bousculent, hébétés d'émotions contraires, terrorisés quand soulagés d'être de retour vivants sur la terre ferme, silencieux devant la terra incognita qui s'étire devant eux en ce jour de l'an de grâce 1492, quand, excités par l'or promis au terme de la course, ils ont la gale, le scorbut, des poux jusque dans les sourcils, et leurs vêtements raides de crasse sont bouffés de vermine. Leur sexe les démange, ils sont scrofuleux et se grattent jusqu'au sang des charognes. Ils ont perdu des dents, les canaux tanguent et les hommes salivent. Quand le fond de l'esquif touche la plage, ils s'enjambent le bordé et plongent un pied dans la mer de l'eau jusqu'à mi-cuisse, puis l'autre. Le canot est déséquilibré, éclaboussure crie, certains chutent, se relèvent et retombent en arrière, trempés, le sel corrodant déjà le fer de leur cuirasse, puisqu'ils sont casqués, armés et lourdement bardés. Ils s'avancent sur le sable et y tombent à genoux, se signent, tandis qu'un prêtre décharné, flottant dans une loque de surplis, la chasuble en poussière, mais le regard en feu brandit un crucifix à bout de bras vers le ciel, dévoilant des poignets blêmes aussi maigres que ceux d'une fillette et baptisant le sol. Il prononce le nom, c'est l'acte de conquête, la prise de possession d'un sol, d'une terre que l'on offre à Dieu, au roi, à l'Église, la conquête d'un territoire que l'on réinitialise, et les noms qui s'y trouvent y seront écrasés. On les concrétionnera, on les recouvrira, si bien qu'ils s'effaceront de la surface du sol, mais continueront de hanter l'espace. Et ceux qui observent les nouveaux venus, ceux-là tapis dans le sous-bois, ceux-là chuchotant dans leur langue le visage déformé par l'étonnement, ceux-là se nommant petit torrent ou cheval volant dans la plaine, rocher de feu ou colline bombée comme un sein de jeune fille, ceux-là retiennent leur souffle, maintenant s'affolent et se transmettent les noms, tous les noms de leur terre. Je me suis demandé dans quel réservoir les hommes avaient puisé les sons et les signes qui marquaient, bornaient, identifiaient, localisaient des points sur le territoire, comme ils avaient inventé des mots suggérant parfois autre chose qu'eux-mêmes, des histoires, un émerveillement, ou plutôt une domination, une exploitation, une violence politique. J'ai pensé aux fantômes qui logeaient dans les noms. Et je me suis demandé comment les entendre, comment les percevoir. La nuit s'est creusée comme une vasque, et l'espace de la cuisine se met à respirer derrière un voile fibreux. J'ai pensé à la matière silencieuse qui s'échappe des noms, à ce qu'ils écrivent à l'encre invisible, à voix haute, le dos bien droit, redressé sur ma chaise et les mains bien à plat sur la table. Et sûrement ridicule en cet instant pour qui m'aurait surprise solennelle, empruntée. Je prononce doucement Lampedusa.
Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh oh oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air. C'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans cette jet là-bas, ça fait sourire les passants. C'est déjà ça. Oh oh oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh. Rêver, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudain. Pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudain. Suite la parole échangée, on te casse les dents. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville au milieu d'une foule. Et là le temps est morphine. Je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça.
Et après cet instant musical, nous revenons au récit de Mélisse de Kerangal à ce stade de la nuit.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
À ce stade de la nuit, j'ai des fourmis dans les jambes et me lève pour sautiller, m'étirer, aller ouvrir la fenêtre de la cuisine et me pencher dans la rue. Nuit de cuir, auréole jaune des lampadaires, à l'eau blanchâtre derrière les fenêtres. Je fixe le bout de la rue, son extrémité qui va s'étrécissant jusqu'au boulevard Voltaire. Si je prolonge cette voie sur son axe en ligne droite, elle franchira la Seine à hauteur de Charenton-le-Pont, puis touchera sans doute Ivry-sur-Seine, Orly, Draveil, Villeneuve-Saint-Georges, Ouzouers sur Trézé, Sancerre, Montmarron, Clermont-Ferrand, Brioude, Florac, Concoule, La Grande Combe, Anduze, Vauvert, Sainte-Marie de la Mer, et puis la mer, justement, celle-là, bleue et impulsive. Au beau milieu de quoi flottent les îles. J'ai accosté à Stromboli pour la première fois à 5h un jeudi d'août en 1994. J'avais embarqué depuis Naples sur un paquebot de la Sirène Mare et je me souviens d'être sorti sur le pont une demi-heure avant l'arrivée prévue sur l'île. Première escale d'une route maritime qui distribue tout l'archipel. Panarea, Salina, Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi. L'air est humide. Le bastingage poisse contre mes paumes et je frissonne dans mon t-shirt. La matière de l'air est un bleu de pénombre, propice aux ambiguïtés. D'un grain poudré comme le sont les photographies prises sur film argentique hautement sensible, du 400 ASA au moins. Des pellicules qui autorisent les prises de vue en basse lumière, mais augmente la granulation de l'image, diminue sa résolution. Si bien que ce qui m'entoure est pris comme dans ce filtre. Ce qui se passe ensuite tient de l'événement, puisqu'un paysage se crée dans le double mouvement du bateau qui s'approche et de la nuit qui s'éclaire, puisque bientôt une forme déchire l'horizon. C'est un triangle quasi isocèle, carbone. Il flotte dans un espace indéterminé, liquide, solide, gazeux, on ne sait pas. Mais sa base est parallèle à ce qui doit être la surface de l'eau, la mer et le ciel, tissant ici une même substance qui se délave à vue d'œil, un espace corpusculaire, une sensation de mauve, de parme, le toucher visuel d'une dragée de baptême. C'est elle, c'est lui. L'île, le volcan. Et tout à coup, ça se précise. Le paysage s'arrache du flou où la distance et la nuit le tenaient au secret. Il se libère et construit tout l'espace en retour, les lignes et les masses, les échelles et les profondeurs de champ, les valeurs de couleurs dans la lumière limpide. Je distingue maintenant la fumerole soufrée, grisâtre, qui embrouille le sommet du volcan. Il a pris de la hauteur comme si une main invisible le pinçait par le haut. La trace de la coulée de pâte basaltique. J'escorte du regard ces pentes ténébreuses. Les marques visibles des anciennes cultures en restant que surlignant le village, les habitations endormies, étirées sur un tiers du cône volcanique bougainvillier en fleurs, citron dans les arbres, maillot de bain qui sèche, barque de pêcheurs couchée sur le sable noir, puis ce sont bientôt des silhouettes humaines qui inscrivent du mouvement, des types barbus, la peau tannée, les pieds chaussés de slap, la tignasse dorée, bouffant sous la casquette et les yeux clairs. Ils attendent le bateau, puis lancent ces lourds cordages qui débouclent dans l'air, l'assaut, leurs gestes sont splendides. Ils battent le rappel de tous les lamaneurs et de tous les bateaux. Ils remémorent. Ils fendent la continuité du temps pour faire affleurer dans leur mouvement la mémoire de l'île. Et ils le font dans le présent de l'instant. Quand je pose le pied sur le moule de béton, j'ai le souffle court. Mon cœur bat la chamade et je me souviens précisément de ce moment. Il est dans ma mémoire comme une scène inaugurale. Depuis, je suis souvent retourné à Stromboli. Je traîne alors dans l'archipel, je passe à Lipari, je reviens à Salina. La baie de Pollara, les carrières de Pierre Ponce, les Capres et le vin. Petite migration bouclée sur une journée, parfois deux. Quand je quitte l'île à la fin du séjour, quelque chose me déchire. Une forme de nostalgie. Et quand j'y reviens, j'ai le sentiment de rallier un lieu qui est le mien, où je suis chez moi, quand pourtant j'y suis une étrangère, qui est peut-être le mien précisément parce que j'y suis arrivée comme une étrangère, exactement comme j'arrive dans un livre. J'aime la fatalité sensuelle de Stromboli, son activité explosive et sa torpeur, son aura à la fois mythique et païenne. Ce tempérament propre aux îles volcaniques de Méditerranée, toute île aride et animale, mélancolique, émergée à la convergence des plaques tectoniques africaines et eurasiennes, aux confins de ces zones où elles se frottent, créant des étincelles projetées hors de failles, des îles où l'on compte les étoiles filantes dans les nuits indigo, tandis que la terre tremble. Ces îles archaïques, mais peut-être aussi que j'aime Stromboli par l'empreinte si forte de sa première apparition. J'y tenais un enfant dans les bras. J'y venais attendre un homme qui m'avait fait une promesse. Je visualise la substance mnésique ici déposée, pollen, touchée, souffle, nappe les reliefs, les pays, les territoires, tout cet espace que nous éprouvons. Je feuillette cette stratigraphie invisible qui les forme et les déforme, qui les décompose et les recompose à la fois dans le temps et dans l'instant. J'appelle la leçon inaugurale que Gilles Clément a prononcée lors de son entrée au Collège de France en 2011, où le paysage se définit à la fois en termes d'expérience physique et en termes de mémoire. Le paysage, selon moi, désigne ce qui se trouve sous l'étendue de notre regard. Pour les non-voyants, il s'agit de ce qui se trouve sous l'étendue de tous les autres sens. À la question « Qu'est-ce que le paysage ?», nous pouvons répondre « Ce que nous gardons en mémoire après avoir cessé de regarder. » Ce que nous gardons en mémoire après avoir cessé d'exercer nos sens au sein d'un espace investi par le corps. À cet instant, les pans de la fenêtre se rabattent avec fracas, ça claque, les vitres tremblent et j'ai peur qu'elles se brisent. Un courant d'air brutal et mystérieux, issu de la rue, transforme la cuisine en chambre d'écho. Je referme la fenêtre. Les vitres se calment, bientôt le silence se reforme, aussi épais et dense qu'il était un instant plus tôt, mais épaissi d'une résonance. J'écoute la vibration. J'aime l'idée que l'expérience de la mémoire, autrement dit l'action de se remémorer, transforme les lieux en paysages, métamorphose les espaces illisibles en récits. À ce stade de la nuit, je sors dans le couloir pour aller me placer devant des piles de livres en appui contre le mur. Je laisse cependant toutes les portes ouvertes. Les jingles du flash spécial catastrophe de Lampedusa bruitent à intervalles réguliers, comme des sonneries d'ascenseur. Je baisse la tête pour déchiffrer les dos des ouvrages. Je m'accroupis, soulève, retourne, je déplace, divise de nouveau en piles. Ça s'écroule. Je cherche un de mes livres, ni fleurs ni couronne. Recueil composé de deux nouvelles qui, chacune, situe une île, l'Irlande et Stromboli. Je relève l'état, Les livres migrent d'une pile à l'autre, je les distribue selon la taille, l'épaisseur des volumes et la couleur de la tranche. J'opère à toute vitesse, à l'instinct. Tout bouge et se réorganise. Je suis maintenant agenouillé sur le plancher et maçonne à la volée un nouveau mur de livres sans en omettre un seul. Après quoi, en nage, je me recule contre le mur du couloir et je regarde. Dans la pénombre, les colonnes de livres grimpent comme des plantes, comme des cariatides. Elles silhouettent une forêt d'un noir cassis, puissante et pulsatile, un temple hanté de fantômes et de chants. Voilà, nous avons terminé pour ce soir la suite de ce récit de Mélisse de Kerangal à ce stade de la nuit que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.